Prologue, à la racine. Le siège new-yorkais du cabinet d'avocats international, de Beauvoise et Plimpton, occupe 10 étages d'une tour de bureaux noirs aux lignes épurées, dans une forêt de gratte-ciel du quartier de Midtown. Fondée en 1931 par 2 avocats de sang bleu, échappés d'un respectable cabinet de Wall Street, de Beauvoise est devenue respectable à son tour, se transformant au fil des décennies en un poids lourd de la scène internationale, avec 800 collaborateurs, une clientèle de haut vol et un chiffre d'affaires annuel de près de 1 milliard de dollars. Les bureaux de Midtown ne conservent plus aucune trace des origines patriciennes du cabinet. On y trouve au contraire le décor banal de n'importe quelle entreprise, avec de la moquette dans les couloirs, des salles de réunion vitrées et des bureaux à hauteur réglable. Au XXe siècle, le pouvoir s'annonçait en grande pompe. Au XXIe siècle, le véritable pouvoir se repère avant tout à sa discrétion. Par un matin frais et ensoleillé du printemps 2019, tandis que le reflet des nuages dérivait sur le vert noir de la façade, Mary Jo White pénétra dans le bâtiment, prit l'ascenseur jusqu'aux locaux de Beauvoise et s'installa dans une salle de réunion fourmillant d'une électricité contenue. Âgée de 71 ans, White était l'incarnation même du pouvoir discret. Toute petite, à peine 1m50, avec des cheveux bruns coupés courts et des paupières tombantes, elle s'exprimait d'une manière franche, sans affectation. C'était pourtant un sniper du barreau. White s'amusait parfois à dire qu'elle se spécialisait dans les grosses catas. Ses services n'étaient pas donnés, mais si vous aviez d'énormes ennuis et beaucoup d'argent à dépenser, c'était l'avocate qu'il vous fallait. White avait auparavant occupé pendant près de 10 ans la fonction de procureur fédéral dans le district sud de New York. Elle y avait mené le procès contre les auteurs de l'attentat de 1993 au World Trade Center. Obama l'avait ensuite nommée présidente de la SEC, l'organisme fédéral chargé de réguler les marchés financiers. Entre ses passages dans la fonction publique, White était toujours retournée à de Beauvoise. Elle avait intégré le cabinet en tant que jeune collaboratrice et était la seconde femme de son histoire à être devenue associée. Elle avait représenté des géants, Verizon, JP Morgan, General Electric, la NFL. La salle de réunion grouillait d'avocats, membres de Beauvoise et d'autres cabinets. Ils étaient plus d'une 20aine, armés de carnets, d'ordinateurs portables et d'énormes classeurs hérissés de post-it. Un haut-parleur était placé sur la table pour qu'une 20aine d'avocats supplémentaires puissent participer à la discussion depuis les 4 coins du pays. Cette petite armée s'était réunie pour assister à la déposition d'une milliardaire aux habitudes de recluse, une cliente de longue date de Mary Jo White, qui se retrouvait au cœur d'un maelstrom de procès, accusée d'avoir, par l'accumulation de sa fortune, conduit à la mort de centaines de milliers de personnes. Lorsqu'elle était procureure, Mary Jo White avait une mission simple, faire ce qui est juste, lutter contre les malfaiteurs, on rend service à la société tous les jours. Ces derniers temps, sa situation était plus complexe. Les avocats d'affaires prestigieux sont des experts dans leur domaine, ils jouissent d'une certaine considération sociale. Mais en fin de compte, leurs clients sont rois. C'est une dynamique bien connue des procureurs lorsqu'ils ont un emprunt immobilier et des frais de scolarité à payer. Ils passent la première partie de leur carrière à lutter contre les malfaiteurs et la deuxième à les défendre. La personne chargée de mener l'interrogatoire ce matin-là était Paul Henry, un avocat d'une bonne 60aine d'années qui détonnait dans cette assemblée d'hommes de loi. Henry était spécialiste en action collective. Il aimait porter des costumes sur mesure bariolés et des chemises cintrées avec un col raide d'une couleur contrastée. Ses cheveux gris fer étaient peignés en arrière, son regard perçant accentué par des lunettes à écailles. Si White maîtrisait les normes du pouvoir discret, Henley optait pour l'effet inverse. On aurait dit un avocat de bande dessinée. Mais il partageait l'esprit de compétition de White et avait un mépris viscéral pour le vernis de bienséance que les gens de sa sorte apposaient à ce type de procédure. Inutile de se voiler la face, pensait Henley. De son point de vue, les clients de White n'étaient que des connards arrogants. La milliardaire qui devait répondre aux questions était une femme d'un peu plus de 70 ans, docteur en médecine, même si elle n'avait jamais vraiment été médecin. Ses cheveux blonds encadraient un large visage au front haut et aux yeux écartés. Elle se comportait de manière brusque. Ses avocats s'étaient démenés pour éviter de la faire témoigner, et elle n'avait pas envie d'être là. Son impatience désinvolte était celle d'une personne qui n'avait jamais eu à faire la queue pour monter dans un avion, songea un des participants à la réunion. « Êtes-vous Cathy Sackler ?» demanda Hanley. « C'est moi, » répondit-elle. Cathy appartenait à la famille Sackler, une éminente dynastie de philanthropes new-yorkais. Quelques années plus tôt, ils avaient fait leur entrée dans la liste, établie par le magazine Forbes, des 20 familles les plus riches des États-Unis, avec une fortune estimée à environ 14 milliards de dollars, évinçant des clans illustres comme les Bush, les Malone et les Rockefeller. Le nom des Sackler figurait au fronton de musées, d'universités et d'hôpitaux dans le monde entier. En sortant de la salle de réunion, Cathy aurait pu descendre la rue sur 20 pâtés de maison jusqu'à l'Institut Sackler des sciences biomédicales, une branche de la faculté de médecine de l'Université de New York, ou la remonter afin de rejoindre le Sackler Center pour la recherche en biomédecine et nutrition, un laboratoire de l'Université Rockefeller, puis pousser jusqu'au Sackler Center pour l'éducation artistique, au musée Guggenheim et continuer sur la 5e avenue jusqu'à l'aile Sackler du Metropolitan Museum of Art. Au cours des 60 années passées, la famille de Cathy Sackler avait marqué la ville de son sceau, comme les Vanderbilt ou les Carnegie l'avaient fait autrefois. Cependant, les Sackler étaient plus riches à présent qu'aucune de ces dynasties dont la fortune remontait à la seconde moitié du 19e siècle. Et leur générosité s'était étendue bien au-delà de New York jusqu'au musée Sackler de Harvard et à l'école Sackler des sciences biomédicales de l'université Tufts, à la bibliothèque Sackler d'Oxford et à l'aile Sackler du Louvre, à la faculté de médecine Sackler de Tel Aviv et au musée Sackler d'art et d'archéologie de Pékin. « J'ai grandi avec des parents qui possédaient des fondations », dit Cathy à Hanley. « Ils contribuaient à des causes sociales », expliqua-t-elle. Les Sackler avaient fait don de centaines de millions de dollars, et pendant des décennies, leur nom avait été associé dans l'esprit du public à la philanthropie. Un directeur de musée avait comparé la famille aux Médicis, le clan d'aristocrates de la Florence du XVe siècle, dont le mécénat avait favorisé l'essor de la Renaissance. Mais alors que les Médicis avaient fait fortune dans la banque, les origines précises de la richesse des Sackler étaient longtemps restées plus nébuleuses. La famille a posé son patronyme sur des institutions culturelles et éducatives de façon quasi obsessionnelle. Il était gravé dans le marbre, imprimé sur des plaques en laiton et même inscrit dans le vitrail. Il y avait des chaires Sackler, des bourses Sackler, des cycles de conférences Sackler et des prix Sackler. Pourtant, un observateur lambda aurait eu du mal à relier ce patronyme à un secteur d'activité capable de générer une telle fortune. Les gens qui avaient l'habitude de croiser les membres du clan lors de dîners de gala et de collectes de fonds dans les Hamptons, sur un yacht dans les Caraïbes ou au ski dans les Alpes suisses, se demandaient sotto voce d'où venait leur argent. C'était d'autant plus étonnant que la majeure partie de la richesse des Sackler avait été acquise non pas à l'ère des grands industriels, mais au cours des dernières décennies. Vous avez obtenu votre licence à l'université de New York en 1980, c'est bien ça ? Demanda Hanley. C'est exact, répondit Cathy Sackler. Et votre diplôme de médecine à la même université en 1984 ? Oui. Et était-il vrai, poursuivit Hanley, qu'après 2 années d'internat en chirurgie, elle avait commencé à travailler pour Purdue Frederick ? Purdue Frederick était le nom d'une société pharmaceutique rebaptisée par la suite Purdue Pharma. Basée dans le Connecticut, elle était la source principale de la fortune des Sackler. Alors que ces derniers tendaient à exiger, au moyen d'accords de dénomination détaillés, que tous les musées ou centres de recherche qui bénéficiaient de leur largesse fassent figurer leur patronyme en bonne place, l'entreprise familiale, elle, ne portait pas leur nom. En fait, on pouvait éplucher tout le site internet de Purdue Pharma sans y trouver la moindre mention des Sackler. Or, Purdue était une société privée qui appartenait exclusivement à des membres de la famille, dont Cathy Sackler.